RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. C'est vous qui prenez la parole avec nous, bien sûr, en direct jusqu'à midi. Vous avez le 32-16 à votre disposition. Charles Consigny est là, l'avocat Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie. Flora Guebali, l'entrepreneur dans la transition écologique. Que va-t-il se passer là dans la deuxième heure des GG, des grandes gueules? On va reparler bien sûr de la canicule. Est-ce qu'on doit arrêter de travailler au-delà de 30 degrés, 35 degrés dans les chambres? Est-ce que l'hôpital va tenir ou pas? Et puis on voit l'hôpital, quand on dit l'hôpital, c'est les patients, c'est les soignants. On vous racontera des petites histoires aussi quand il y a des parents de soignants qui veulent apporter un climatiseur ou une ventilation. On leur dit non, attention, il faut que ce soit aux normes, surtout pas.
Vous êtes des nazis.
D'abord, on va commencer par s'intéresser à ce qui s'est passé du côté de Narbonne avec un lynchage mortel. Ce sont 5 jeunes, dont 3 mineurs, qui se sont retrouvés mis en examen et surtout placés en détention provisoire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tendu un guet-apens mortel à un jeune de 17 ans.
Jordan, 16 ans, Lucas, 17 ans, Mathias, 17 ans, Isaac, 18 ans, Kylian, 19 ans. Ils ont non seulement lynché à mort à coups de pied à la tête Louis, 17 ans, mais ils ont en plus diffusé sur les réseaux sociaux ces images qui sont insoutenables. Je vous conseille de ne pas les regarder. En fait, c'est un guet-apens qui a été tendu aux alentours de 23h30 à Narbonne sur un chantier. Ça s'est passé mardi. Louis s'est retrouvé dans un état critique. On l'a retrouvé par terre par des ouvriers, transporté en urgence à l'hôpital. Il décédera de ses blessures quelques heures plus tard. Donc le procureur qui a pris la parole confirme que effectivement il y a préméditation, guet-apens. Pourquoi? On ne le sait pas encore. En tout cas, une fois de plus, le témoignage d'une barbarie.
32-16 pour en parler avec les GG, avec les grands gars. Jean-Loup, est-ce qu'on doit s'étonner ou pas?
Ah non, on ne doit pas s'étonner, c'est que la énième affaire d'une longue série. Je me souviens par contre des débats qu'il y avait eu justement avec Monsieur Dupond-Moretti, garde des Sceaux à l'époque, sur le terme d'ensauvagement, qu'il contestait ce terme. Bah, voilà aussi pourquoi il y a des problèmes et voilà pourquoi on laisse la société s'ensauvager, c'est que les élites politiques, intellectuelles, médiatiques ne sont même pas d'accord pour prononcer le mot et dresser un constat qui est pourtant évident et que tout le monde, en regardant les affaires, pourrait formuler. Donc il y a un véritable déni de la situation. Ça, je pense que c'est le premier point qu'on peut faire. Le deuxième également, c'est que tu remarques, j'espère que les juges pourront faire le parallèle, que ce qui est arrivé à ce malheureux jeune homme, c'est la même chose que ce qui, physiquement, factuellement, que ce qui est arrivé au jeune Quentin Derenque. C'est-à-dire lynché au sol par 5 personnes, traumatisme crânien, décès. C'est exactement la même chose. Donc si on est horrifié, scandalisé par cette affaire et par le mode opératoire, on doit être aussi horrifié et scandalisé par ce qui est arrivé au jeune Quentin à Lyon il y a quelques mois. Et enfin, dans un pays normalement constitué, je pense que les 5 personnes... Il y a des mineurs et des majeurs, les 5 personnes, quel que soit leur âge, devraient être incarcérées et ne jamais ressortir. C'est typiquement le genre de cas où la loi devrait prévoir une perpétuité réelle et tu dois entrer en prison, par exemple à 17 ans, et ne jamais en ressortir si on vivait dans un pays qui fonctionne normalement.
Sauf que là, Charles, il y a donc 5 coupables, 3 mineurs et 2 adultes. Donc les 3 mineurs, 16, 17 ans et 17 ans, ils vont être jugés différemment. Ou alors l'excuse de minorité peut-elle sauter ?
Alors, ils vont de toute façon être effectivement jugés par la cour d'assises des mineurs, mais cette cour d'assises pourra décider de lever l'excuse de minorité.
Il se fait rarement quand même.
Ce qui peut ça peut exister. Je ne sais pas ce qui sera
décidé. Mais pour
les
mêmes faits à un an près, il y a des gens qui vont être jugés différemment.
Oui, voilà. Ce qui est délirant.
Ce qui est pas d'une logique implacable, je te l'accorde. Écoute, moi, on constate qu'on est face à toujours ce phénomène qui revient régulièrement dans l'actualité, qui est la racaillisation de la jeunesse. Et c'est ces jeunes racaillisés qui sont complètement hébétés été civilisé, pas encore, si pas civilisé du tout, et qui en viennent effectivement à s'entretuer, à filmer leur leur massacre, enfin c'est
oui c'est ça, c'est filmé et le poster sur les réseaux sociaux,
c'est insensé,
les
moi
derrière,
franchement
c'est frappé sur la tête,
toujours hein, on frappe à la tête,
mettre,
oui.
Qu'est-ce oui. que franchement ça devrait être une cause nationale, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait de ces putains de racailles, c'est quand même un vrai sujet,
sauvable
d'abord qu'on
des
fait,
gibets
qu'on
des
fait,
geôles
qu'ont fait leurs parents.
Les geôles, oui, le gibet, on va éviter.
Qu'ont fait leurs parents. Oui, mais non, mais le problème, c'est qu'on pourra pas tous les foutre en tôle, parce qu'ils sont quand même très nombreux. Il y a sans cesse des problèmes de cette nature-là. Quand c'est pas des passages à tabac comme il y en a l'un, c'est des pillages de magasins. Quand c'est pas des pillages de magasins, c'est des voitures qui brûlent. Quand c'est pas des voitures qui brûlent, c'est on tire au mortier sur la police, etc., etc. Ou alors même sur les pompiers. Ou alors, on va pas tous les mettre en tôle. Donc moi,
on va pas tous les mettre en tôle. Mais en fait, il y a une bande et dans une bande, il y a toujours un chef.
Donc, les
on
parents,
arrive déjà à mettre les chefs
non,
en
mais
tôle.
Ça, pardon, c'est des conneries. Excuse-moi,
non.
C'est des bandes de jeunes. Non, il y en a tellement. Non, ils s'entretuent entre eux.
Oui, ouais, je trouve
qu'il y a une faillite
mais
des parents.
Mais il y a
parents,
des chefs dans les bandes.
Faillite des parents et faillite quand même du système éducatif qui n'a pas su faire de ces jeunes gens des citoyens éclairés, qui les a laissés au stade sauvage. Donc, je suis désolé, il faut prendre ce problème à bras le corps.
Florent.
Moi, ce qui m'interpelle, c'est que les faits ont eu lieu. Olivier, est-ce que tu as la date et l'heure des faits?
C'était mardi, 23h30.
Voilà, donc
sur un chantier à Narbonne.
Mardi 23h30, on est bientôt 48 heures après les faits. Le procureur a eu le temps de s'exprimer, mais la vidéo circule encore sur Internet. Et moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un service public capable de supprimer en 30 minutes une vidéo problématique quand elle est signalée. Et là, ça veut dire qu'en 48 heures, il y a des millions, déjà nous tous autour de la table, mais des millions d'internautes qui ont vu cette vidéo, qui ont vu cette violence.
En même temps, elle permet d'informer.
C'est aussi des mineurs. Oui, mais en fait, une fois que le procureur l'a vu, on n'a pas besoin d'être exposé à une telle violence. C'est comme quand il y avait des vidéos de guerre absolument atroces, que ce soit à Gaza ou en Ukraine, qui circulaient. On n'a pas à voir des choses comme ça. Et en fait, moi, je crois que c'est le cœur du sujet, parce que penser que on est capable d'être dans une société moins violente avec en étant exposé autant à de la violence sur les réseaux, c'est se tromper. Et donc je comprends pas qu'on ait des services aussi mauvais sur la prévention de la violence en ligne. Et je trouve que c'est un sujet, évidemment le cœur du sujet c'est le décès de Louis qui avait 17 ans, mais il y a aussi un sujet sur la propagation d'une telle violence.
Il y a un sujet aussi quand même parce que la victime visiblement était dans une situation familiale et sociale difficile, était justement placée à l'aide sociale à l'enfance, et on constate quand même que ces structures qui sont censées protéger, là encore, dysfonctionnent complètement, que ce soit en France ou en Angleterre. Parce que regarde, au Royaume-Uni, il y a eu l'affaire des grooming gangs avec des dizaines de milliers de jeunes filles qui étaient dans des situations sociales difficiles et qui ont été livrées à des gangs de violeurs et de proxénètes, avec vraiment la police et les services sociaux qui ont fermé les yeux pendant des années. En France, tu as notre ami Abel Boyi pourrait nous en parler en détail, le scandale, en plus du scandale du périscolaire parisien, t'as le scandale de l'aide sociale à l'enfance, avec en effet qui sert de filière à des recrutements de réseaux de proxénétisme pour les mineurs. Et puis t'as des jeunes, voilà, ce jeune à 17 ans, à 23h30 il est dehors, il est dans un guet-apens. Tu te demandes quand même, l'aide sociale à l'enfance, là aussi on pourrait faire une belle commission d'enquête.
Là encore c'est la puissance publique.
Et là aussi c'est la puissance publique qui est complètement impuissante.
Qui est totalement impuissante.
Et alors là tu pourrais faire une belle commission d'enquête.
Oui, mais encore une fois, ces enfants ne votent pas, ces adolescents qui sont aux mains effectivement des réseaux de prostitution. On avait reçu notre confrère qui a fait
la fabrique du malheur,
une enquête implacable sur le. C'est un véritable scandale, l'ASE.
Bien sûr,
comme le périscolaire. Mais tu remarqueras que ni le périscolaire ni l'ASE, tout ça ne fait pas.
Ah mais les éducateurs sont dos.
Et
tu es un dangereux démagogue.
L'histoire hallucinante de l'ASE, c'est que les proxénètes ont découvert que les maisons des enfants étaient ouvertes et donc ils pouvaient aller voir des jeunes filles de 11 ans. Et leur dire, est-ce que
dérivez complètement par rapport au sujet du meurtre de ce jeune homme.
Apparemment, c'est
le jeune homme
à l'ASE.
Il avait été placé dans un foyer.
Il s'est pas fait passer à tabac par des proxénètes et des pédophiles.
On n'a pas les
sirènes. Vous avez vu la vidéo?
Je dis que les enfants de
l'ASE
ne sont pas
protégés.
On est d'accord.
Vous avez trouvé dans un guet-apens.
Cinq Kaira dans leur culture.
Oui, mais dans l'ASE, règne un climat de violence parce qu'on laisse.
On ne protège pas, c'est un enfant de 17 ans, pourquoi il est dehors déjà?
L'ASE, c'est quoi? L'idée, c'est de prendre les enfants qui sont dans des familles à problème, etc., de les mettre dans des institutions publiques et se dire on va les sortir de leur merde. En gros, c'est ça l'ASE. Et finalement, c'est pire parce qu'on les met dans des climats de violence.
Je ne sais pas si les 5 autres étaient à l'ASE.
À mon avis, ça doit être.
Non, mais c'est que. Non, mais lui était à l'ASE. Il n'a pas été protégé.
Ils n'avaient pas des looks ASE, tu vois. Ils avaient
des baskets de marque. Nasser qui veut en parler avec nous. Nasser qui est chef de service du côté de la Somme. Bonjour Nasser.
Bonjour.
Et vous travaillez en plus dans la protection à l'enfance. Qu'est-ce que vous
Non, justement, c'est ce que je dis à chaque fois. J'ai été éducateur.
Oui, vous l'avez été, c'est vrai.
Voilà. Et maintenant, je suis chef de service, mais dans le handicap. Donc, je vois.
Qu'est-ce que vous en pensez, Nasser?
Énormément de choses. Il faudrait des heures pour en parler. Mais Charles, j'adore Charles. Hein, il a un super diatribe d'avocat. Mais en fait, le fond, faut le connaître. Faut être un expert avant de parler des choses.
J'ai défendu plein de mineurs mis en cause pour des rixes entre mineurs.
Allez-y.
J'ai zéro leçon à recevoir de toi. T'es gentil.
De faire un débat, faut juste aller jusqu'au bout. Les termes qu'on emploie, c'est pas des racailles, c'est des enfants placés. Les enfants placés, je ne sais plus qui vient d'expliquer ce que c'est l'ASE, c'est pas exactement ça. Dans un foyer, c'est des enfants qui ont été tabassés. Ils ont été tabassés par leurs parents, violés par leurs parents, maltraités.
Oui, des enfants qu'on est censé.
Oui, mais les cinq là qu'on voit dans la vidéo.
Excusez-moi. Ou des fois qui ont juste eu, même si c'est déjà énorme, des carences éducatives, voilà, des situations de vie difficiles. Mais pour un enfant qui a été élevé uniquement à se faire tabasser, la seule chose qu'il connaît à 15 ans, c'est de tabasser. C'est pas une racaille, c'est un enfant qui est brisé.
Si, c'est une racaille, et vous êtes dans la culture de l'excuse. On a un jeune de 17 ans qui a été lynché et tué par 5 personnes. Ceux qui ont fait ça sont des racailles et des criminels et des meurtriers. Et on n'en a rien à foutre de leur parcours, s'ils ont été tabassés par leurs parents ou pas. Tous les gens qui ont été tabassés ne finissent pas par être des meurtriers.
Ça fait exactement penser à ce qu'avait dit Manuel Valls. On n'est pas là pour comprendre. Pour changer les choses dans la vie, il faut essayer de les comprendre. Si on ne cherche pas à les comprendre, rien ne changera. Dans les foyers, vous parliez des éducateurs, qu'il ne faut surtout pas parler des éducateurs. Dans les foyers, du type là où j'ai travaillé, c'est 2 éducateurs pour 15 enfants qui sont en carence, qui sont des fois violents, qui des fois ont des pulsions. Voilà, c'est 2 éducateurs pour 15 enfants. Et des fois qui ont des doubles vulnérabilités, qui peuvent être à la fois des enfants issus de la protection de l'enfance, mais aussi avec des déficiences ou de l'autisme ou d'autres handicaps. Donc au bout d'un moment, quand on parle des choses, il faut le savoir. Là, cet enfant-là, il était dehors, c'est Flora qui le disait, à 23h, à l'ASE, enfin pas à l'ASE, pardon, dans les foyers, par exemple, un enfant qui fugue, entre guillemets, il a le droit de fuguer. L'éducateur, le seul truc qu'il a le droit de lui dire, c'est « tu n'as pas le droit, on n'a pas le droit de fermer la porte ». C'est interdit. Si je sais qu'un enfant a fugué et qu'il est au bout de la rue, je n'ai pas le droit de sortir de l'établissement pour aller le chercher. Si je sais qu'une fille va monter dans une voiture et qu'elle est dans la voiture ou devant la voiture, devant le foyer et qu'après elle va aller se faire violer, je n'ai pas le droit d'aller la chercher.
C'est un problème d'ailleurs.
Mais donc c'est un problème. Donc c'est le système qui est très mal foutu. Les éducateurs, je dis pas que tous les éducateurs sont merveilleux. Moi, j'ai travaillé dans un établissement où je suis fan parce que c'est le service public, on accueille tous les enfants sans condition.
Nasser, fort de ce que vous nous avez dit, je sais que vous êtes un fidèle de l'émission, vous avez entendu quand vous avez écouté quand on avait reçu le journaliste auteur de cette enquête sur la fabrique du malheur et sur pourquoi ça ne change pas. Qu'est-ce qui empêche de changer justement?
Demander aux politiques. Là, je suis passé en début de semaine pour Liana. Je suis passé en début de semaine pour Liana. Et après, ça a coupé parce que voilà, je suis parti au standard et je continue à parler. Vous étiez en train de parler comme là. Il faudrait une commission d'enquête. Il faudrait ci, il faudrait ça. En fait, les politiques s'en foutent. Une partie, en tout cas, des politiques s'en foutent. Il y a des établissements il y a des départements qui ont changé les choses, qui ont cassé leurs grandes institutions à 15, 20 enfants et qui ont fait des petites maisons. Certains politiques qui intéressent d'autres politiques. Vous savez, dans notre département, le président Ousselier avait accueilli Monsieur Macron, qui lui avait donné une mission sur l'enfance et sur le handicap. Qu'est-ce que ça a donné cette mission-là? De deux, notre département est l'un des plus mal lotis en termes de protection de l'enfance. Pourquoi c'est cette personne-là qui est l'une des plus mauvaises en termes de protection des enfants qui a eu cette mission-là, à part les copinages de politique? Et quand ils viennent sur le plateau, moi c'est ça des fois qui me frustre, c'est que je trouve que, et c'est normal, c'est le côté média, c'est le côté plateau et tout ça, mais en fait je trouve que c'est super sympa avec eux, quoi.
Pour moi, mais Nasser, c'est surtout de l'argent qui manque, non?
Et de la volonté. L'argent.
Mais est-ce que c'est vraiment l'argent, pardon?
Je vous donne juste un exemple. Un exemple. J'ai changé de champ, maintenant j'ai eu l'opportunité d'être dans le handicap adulte. là où je travaillais avec les adolescents. Le budget de fonctionnement pour les activités, pour les sorties, pour l'ensemble de ce qui est la vie de, d'un groupe de 15 enfants, avec les séjours d'été, hein, c'était 9 500 euros. Là où je suis, quand je suis arrivé dans le handicap, ça finit pas. Quand je suis arrivé dans le handicap, je suis à pratiquement x10.
D'accord.
Pratiquement.
Mais Nasser, vous qui connaissez ces jeunes, pardon, mais là, on a des bourreaux. C'est Olivier Truchot. On a des bourreaux présumés. Ils sont 5.
Bien sûr.
Ouais. On a 3 mineurs et 2 jeunes adultes. Enfin, ils ont entre 16 et 19 ans, donc c'est à peu près le même âge. Bon, ils seront pas jugés de la même façon. Donc déjà, première question, pourquoi ? Deuxième question, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Qu'est-ce qu'on va en faire de ces gens-là qui ont tué un de leurs camarades de 17 ans ? Mais d'accord, mais est-ce qu'on n'est pas face à une génération perdue ? Je reprends ce que dit souvent Abel Boyi qui travaille avec ces jeunes. Il dit il y a une génération perdue. Donc l'idée c'est d'éviter que celle qui arrive soit pareille. Alors j'entends beaucoup les politiques dire qu'il faut un choc d'autorité. C'est le grand truc, choc d'autorité. Gabriel Attal utilise ce terme. Mais ça veut dire quoi, le choc d'autorité ? Comment on fait que pour qu'on puisse vivre quand même tranquillement, sans craindre que nos enfants tombent sur ces sauvages qui sont prêts à tuer. Pour en plus, à mon avis, quand on aura le motif, enfin le mobile,
tout à fait futile,
le mobile sera sans doute totalement futile par rapport au fait.
Dans les foyers, les trois quarts des histoires, c'est n'importe quoi. C'est des histoires d'adolescents, mais qui finissent extrêmement mal. Et donc là, dans ce cas-là, dans un drame. Concernant la prison, ce que vous disiez au début, Olivier, moi, j'adore les ados. Enfin, je suis un passionné. Mais voilà, si c'est la casse-prison, c'est la casse-prison. Il n'y a même pas à parler. C'est
tout. Mais comment on fait pour ne pas fabriquer une nouvelle génération qui sera pareille ou pire ?
Je pense qu'il faut d'une, donner les moyens. Parce qu'il y a un terme de moyens financiers, les moyens humains, la formation qui s'est dégradée. Moi, j'intervenais dans une école d'éduc, j'ai arrêté, mais parce que je m'y retrouve. En tout cas, moi, je ne m'y retrouvais plus du tout.
Mais avant ça, ces jeunes, ils ont des parents. Enfin, pardon, ils ont grandi dans des foyers.
Ah, mais si vous remontez jusqu'aux parents,
Darmanin l'avait dit un jour, l'État ne peut pas tout, ne peut pas
Nasser,
tous les problèmes des foyers.
Nasser, on verra, parce qu'on a déjà pas les raisons. On ne sait pas précisément pourquoi ça s'est passé.
Avis, alors,
Nasser, je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité et d'intervenir quand on a ces discussions sur cette violence. À voir pourquoi il y a eu ce guet-apens. Pourquoi est-ce qu'ils ont été à 5 à s'en prendre à Louis ? Quels étaient les motifs ? On verra ça au fil des jours. Dans un instant, on va revenir aux histoires de la canicule avec l'hôpital. Est-ce que l'hôpital va craquer, oui ou non ? Pourquoi est-ce qu'on a encore un hôpital avec des chambres qui ne sont pas climatisées ? Il y a des chambres où il y a 35 degrés encore, et puis on a les premières victimes par arrêt cardiaque, des personnes très fragiles, mais qui commencent à être maintenant répertoriées. 32-16 pour en discuter avec les GG, il est 10h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules. 1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les GG, avec les Grandes Gueules, c'est sur RMC la radio, RMC Story la télé, Flora Guebali, Charles Consigny, Jean-Loup Bonamy, sont les Grandes Gueules qui vous accompagnent en direct jusqu'à midi. L'hôpital va-t-il tenir ? C'est la question que l'on se pose avec ces chaleurs qui montent. Quand on dit l'hôpital va-t-il tenir, c'est-à-dire si jamais il y a un afflux de gens qui font des malaises ou qui sont en difficulté sanitaire, et puis l'hôpital va-t-il tenir dans sa structure avec les soignants et les patients qui sont dans des chambres qui ne sont pas réfrigérées. J'ai dit réfrigérées, je devrais dire aérées, ventilées ou avec l'air conditionné.
Climatisé.
On dirait avant on disait air conditionné, maintenant on dit plus l'air conditionné, on dit la clim. Maintenant on a changé dans le registre linguistique.
Mais parce qu'avec
aussi
ta présentation, on dirait un peu la chambre froide d'une boucherie.
C'est vrai.
Comme ça nous entraîne Rocky.
Ou d'une morgue.
Ah, ou d'une morgue, oui.
Où nous terminerons tous fatalement de toutes les manières. Écoutez, Madame la ministre de la Santé, Madame Stéphanie Rist.
Depuis la canicule de 2003, 40% des hôpitaux ont été reconstruits, rénovés et plus confortables pour les malades. Nous avons, j'avais annoncé il y a quelques semaines, 6 milliards d'investissements pour les 10 prochaines années, pour les hôpitaux qui vont être reconstruits, qui eux aussi seront adaptés pour le changement climatique. Et j'annonce là que je double l'enveloppe qui permet cette adaptation, ce qui permet de dire que dans 10 ans, 100% des hôpitaux seront adaptés au réchauffement climatique.
Dans 10 ans.
Attends,
on a le temps d'avoir
le calcul. Donc en 2003, ce qu'elle raconte, Madame Rist, on le disait en 2003, je me souviens, on en a fait des plateaux télé après la première canicule, on allait équiper les hôpitaux. Donc 2003-2026, ça fait 23 ans. Il faut rajouter 10 ans. Donc 33 ans. 33 ans pour que la France mette ses établissements de santé aux normes
Startup Nation.
De ces fortes chaleurs, puisque les mêmes nous expliquent matin, midi et soir, nous faisant un peu culpabiliser, vous savez, le réchauffement climatique, il est là, il faut s'y habituer, etc. Je voudrais citer Cédric, qui était hier soir sur BFM TV, dans l'émission de Marc Fauvel. Sa maman, à 83 ans, est à l'hôpital. Elle n'a pas de climatisation dans sa chambre. Donc Cédric, qui est un bon fils, il a été acheté un climatiseur mobile pour l'installer dans la chambre de sa maman. Eh bien, on lui a interdit. On lui a interdit parce qu'on a dit, vous comprenez, c'est injuste pour ceux qui n'en ont pas. C'est énorme. Ça la France, c'est-à-dire que
la France est un sketch.
La France, c'est l'égalité pour tous. C'est-à-dire on doit tous mourir de chaud de la même façon. Et s'il y en a un qui se débrouille pour avoir peut-être le moyen d'avoir moins chaud, ben non, c'est pas bien. Voilà.
La France est un sketch. Le réel dépasse la fiction.
Surtout les riches à l'hôpital américain où ils sont surclimatisés, servis par des majordomes. Ayant chacun une chambre individuelle avec salon, si tu veux, ça les fait rigoler, ce genre de... Non, mais on est quand même sur Mars.
Et à l'hôpital, ce que l'on
l'hôpital
te dit, c'est...
L'hôpital de Nantes, tout neuf, pas de climatisation.
La moitié du bâtiment est climatisé, simplement. Ouais. Ce que l'on dit dans les hôpitaux, parce que je regardais les règlements, c'est que on doit vérifier que l'appareil que tu apportes à, tu sais, la norme NF, norme française. C'est-à-dire que si tu commandes un petit climatiseur en urgence, je te dis n'importe quoi, sur Chine ou sur Temu, pour pas le payer trop cher en disant, je vais juste utiliser 4-5 jours, que tu l'apportes, que tu le branches et que la prise brûle ou qu'il se passe quoi que ce soit. Non, mais c'est ce qu'on dit du côté de l'hôpital. Et ça, la norme,
bien sûr.
Non, mais je veux dire, ça peut s'entendre,
C'est vrai, il faut mieux laisser une médecine 80 ans, par exemple, mourir de chaud à l'hôpital.
Voilà, je m'attendais à ce qu'on dise ça.
Bien sûr, mais surtout bien respecter la norme, c'est important.
Non, mais regarde, Olivier, aujourd'hui...
Tu peux me donner un exemple d'un climatiseur qui a été apporté par un particulier dans un hôpital qui a fait péter les plombs d'un hôpital.
Cet exemple, je l'ai pas. En revanche,
ça n'existe pas.
Sauf
donc
que
on vit sur des fantasmes.
Je te dis qu'aujourd'hui, non, c'est pas un fantasme. Si. Aujourd'hui, on a tous commandé des prises de recharge iPhone aussi sur des sites chinois à 1 euro qui se mettent à chauffer
dans les hôpitaux.
Et tu te rends compte toi-même qu'elles sont pas forcément en ordre.
Je suis désolé. J'ai chez moi un ventilateur Amazon à 10 balles. Bah oui. Bref, j'ai pris un truc vraiment de base, probablement made in China. Tout
c'est pas aux normes, attention.
Il marche extrêmement bien.
Et oui.
Je suis désolé de dire, je sais qu'on n'a pas le droit de dire ça, mais je le redis, un ventilateur, quand même, ça vous suffit largement à affronter cette canicule. Je suis désolé de le dire.
Mais il n'y a même pas ça dans les champs.
Non, mais excusez-moi, mais
les gens peuvent s'acheter un
ventilateur.
C'est pas la Sécu qui va payer les ventilateurs.
Désolé, un ventilateur, ça suffit pas partout. Hier, j'étais dans une pharmacie pour acheter un médicament. J'ai fait 2 minutes de queue.
Pas à 42 degrés.
Il y avait un ventilateur. La pharmacie, elle était sous une vitre avec le soleil dessus. J'ai dit à la pharmacienne, fermez le reste de la journée. C'est intenable. Vous allez même faire la queue 2 minutes et acheter un truc, c'était intenable. Donc c'est pas vrai, on n'est pas tous lotis à la même, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Et aujourd'hui, il faut faire, enfin là, quand je pense aux maternités et aux femmes qui sont en train d'accoucher, il y a des endroits où on enregistre 62 degrés avec un preneur de température, donc ils sont ou un bébé qui naît et qui arrive dans ce contexte, ou une famille qui rentre de la maternité et qui arrive chez elle, et ça, chez eux, c'est une passoire thermique. Enfin, vous vous rendez compte qu'on est aussi
la canicule
elle dure plus d'une semaine, bientôt on sait qu'elles dureront encore plus longtemps, ça va nous coûter très très cher en vie humaine.
Madame Riss nous dit 10 ans de plus pour mettre tout dedans.
On a Jérôme Marty, notre ami Jérôme, médecin, qui est avec nous. Bonjour,
enfin,
docteur
du bon
Marty.
Sens.
Salut Gégé.
Est-ce que l'hôpital va tenir, Jérôme, ou pas? Alors, est-ce qu'on est prêt?
Ben, l'hôpital il va tenir, il vaudrait mieux que...
Les malades arrivent, là, ça y est, on commence à avoir des malades.
Que l'hôpital s'adapte. On était avec la ministre hier après-midi encore, puisqu'on fait des zooms avec tous les responsables, globalement, des hôpitaux, des cliniques, des cabinets de ville, etc., une fois par semaine pour faire un point. Et là, c'est centré, évidemment, sur la canicule. Les moyens des équipes doivent être trouvés en interne. C'est ça qui est fou. Je vous entends parler d'établissements qui manquent de climatisation ou de services qui sont sans climatisation. Mais que le président de la CME, de ses services, aille traîner le directeur de l'hôpital par la peau des fesses.
C'est quoi la CME ?
L'amène dans le service en question. Et le directeur, avec ses petits bras, il va aller acheter les clims.
C'est quoi la CME ?
Moi, mon établissement, il est tout petit. Leurs gilets jaunes partout, dans les zones communes, dans les zones qui sont les parties communes, et on amène les patients tous les jours dans les parties communes pour que leur organisme se repose, et on laisse les portes des chambres ouvertes, et on ferme les volets, et on s'en sort, mais on se démerde, on arrête de se plaindre. Je suis désolé, mais depuis, ça fait une semaine que j'entends des services dire « Oh, mais les chambres sont à 35, on n'a rien. » Mais allez chercher vos directeurs, amenez-les dans les trucs à 35 degrés, et qu'ils aillent chercher les clims. C'est quand même pas compliqué, on se démerde. Par contre, sur ce que vous disiez sur le patient, les établissements, c'est des ERP de type U. On n'y peut rien, on a des classements qui sont des classements de zones du public avec des personnes qui dorment et qui sont malades, qui sont extrêmement strictes. Et on ne peut pas amener du matériel de l'extérieur. Pas
normé. Oui, mais rien n'empêche effectivement les directeurs de ces hôpitaux d'agir, de se bouger un peu les fesses.
Mais évidemment, on se démerde. Comment on a fait, nous, ici? On a passé un deal avec la mairie. La mairie nous amène tous les après-midi deux bénévoles. Et ces bénévoles, ils viennent pour quoi faire? Pour aider le personnel à amener les patients dans les parties communes, pour filer de la flotte aux patients. Évidemment, tout ça, sous procédure et sous protocole. Mais au moins, ils nous aident.
Oui, mais Jérôme, ce que tu décris, c'est la souplesse du privé par rapport à l'inertie du public, en fait. Et si l'administration n'a pas donné une consigne, on ne fait rien, on ne bouge pas.
Mais alors, il n'y a pas d'inertie du côté des équipes soignantes, elles font le job, mais il y a effectivement une inertie terrible
de l'administratif.
Mais évidemment,
l'administratif,
là où on est responsable et où les soignants sont responsables, c'est qu'il faut que l'on arrête comme ça de courber les chines devant l'administration, on va la chercher et on l'amène dans les couloirs à 35 et on leur dit « mais vous allez nous chercher des clims tout de suite ».
Mais Jérôme, ce qui est terrible, c'est que cette canicule, ça fait 15 jours, 3 semaines, enfin on va dire plus de 15 jours que les services météo l'annoncent.
Il y avait eu la vague de chaleur de mai.
Voilà, avec une amplitude de température que l'on disait assez forte. Alors peut-être pas jusqu'à 40 degrés, mais on disait attention, ça va quand même tabasser. Donc les services auraient déjà pu s'organiser, quoi, de toutes les manières.
Mais ça fait des années qu'on va avoir des phénomènes caniculaires de plus en plus fréquents et de plus en plus durs. Là, on en a eu un en juin, on en a eu un en mai qui a été dur, on en a eu un en juin qui est très dur, il est plus que probable qu'on en aura un juillet.
On en a eu un en juillet, oui.
Bon, oui, bien sûr.
C'est comme ça. Donc, maintenant, ça va devenir une norme, ça va devenir notre façon d'exercer. Nous, on a demandé, par exemple, que les médecins s'adaptent et que ceux qui le peuvent créent des plages de consultation fraîcheur, c'est-à-dire ouvrent plus tôt le matin ou ferment plus tard le soir, tout en fermant leur cabinet s'il le faut l'après-midi, pour permettre aux patients de ne pas souffrir en allant les voir et de ne pas être exposés à des températures qui peuvent être létales pour certains patients. Tout ça, c'est de la logique. Mais ça va devenir notre quotidien parce qu'il va falloir s'adapter à ces températures. Donc oui, les établissements, il va falloir mettre des films.
Oui, le problème, c'est que Jérôme, terminé tout ça, le problème, c'est que dès que ça va être terminé, on va passer à autre chose. Et le risque, c'est qu'il ne se passe rien de concret. C'est-à-dire qu'on n'anticipe pas les prochaines vagues caniculaires.
Jérôme, on a Samuel qui est un de tes confrères médecin, qui est médecin urgentiste à Levallois. Bonjour Samuel.
Bonjour. C'était pas de stigmate, je voulais pas citer forcément l'hôpital, mais c'était pas par...
Non, j'ai dit que vous étiez à Levallois.
Voilà, par volonté, mais parce que...
À l'hôpital Patrick Balkany de Levallois.
Voilà. Non, mais en tout cas, le but, c'est pas de parler vraiment de mon hôpital ou des... Voilà, c'est de parler de manière générale.
Vous avez travaillé par 38, vous.
Moi, j'ai travaillé cette nuit. J'ai de la chance que mon service des urgences, il soit climatisé et que ça soit le seul de l'hôpital. J'ai constaté qu'il faisait 38 degrés dans les services de gériatrie.
38 degrés,
Alors ça, c'était en début de soirée, ça s'est rafraîchi par la suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, et j'ai entendu une partie de l'intervention de la personne juste avant, c'est en fait, on est obligé de combler. Alors oui, on a descendu des personnes de gériatrie, parfois 3 heures, juste pour avoir 3 heures de clim, et après remonter, et après on est obligé de prendre quelqu'un.
Pardon, dans votre hôpital, le directeur peut pas acheter des clims pour le mettre dans son service?
Le directeur, en plus, il est plein de bonne volonté, mais le problème, c'est qu'il faut trouver des clims, et en ce moment, c'est pas forcément facile. Il fallait peut-être l'anticiper, mais ça, c'est encore une autre question. Il y a des ventilateurs qui sont mis, mais qui brassent beaucoup d'air chaud, et surtout, quand il fait 38 degrés dans un service de gériatrie, ça permet pas de lutter contre la déshydratation des personnes.
Mais ça coûte pas si cher que ça, des climatisateurs aujourd'hui. Voilà. Enfin, je comprends pas.
Et après, c'est une question plus globale. Est-ce que vous disiez tout à l'heure sur les normes? Est-ce qu'on a le droit foncièrement d'aller avec son camion acheter des climatiseurs et les mettre dans des chambres? Je sais pas. Ça dépend aussi des HAS. Est-ce qu'on rentre dans la règle?
Il faut avoir le bon formulaire.
Est-ce qu'on a le bon formulaire? Est-ce qu'on a fait des appels d'offres? Est-ce que
voilà c'est donc, ça. Oh, oui, j'imagine que c'est ça le directeur
demain,
t'es obligé de faire
demain, j'imagine que les personnes du personnel du service RH, ils aimeraient bien prendre chez Leroy Merlin 4 climatiseurs et peut-être que ça rentre pas dans la norme et qu'on ne sera pas certifié dans 2 ans par les HAS. Donc voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est surtout que le là on parle de
donc on ne fait rien et
on parle de la canicule. C'est l'hôpital et surtout le personnel soignant. Moi, j'ai la chance, je suis médecin et entre guillemets, j'ai le bon rôle. Donc voilà, mais les aides-soignants, infirmiers qui font les soins, qui font la toilette, qui doivent passer régulièrement pour hydrater les personnes âgées, là, on parle de canicule, mais en fait, c'est un service. Enfin, l'hôpital qui s'adapte en permanence. En fait, depuis des années, ça fait des années que je vois, il y a pas de pile à perf ou il marche pas. Il y a le lit électrique qui marche pas. Il y a pas le système pour lever le patient pour aider à la toilette. Mais bon, c'est des soignants, vous savez, celui qui a fait en gériatrie, qui travaille en gériatrie, a priori, c'est plus par plaisir et que vraiment par pour gagner sa vie, pour s'enrichir. Et donc, en fait, tout le monde fait le dos rond pour pouvoir adapter l'hôpital aux conditions, mais je suis sûr qu'on prendrait des parlementaires et des ministres et on les ferait travailler dans le service de gériatrie à 38 degrés que les fonds ils seraient débloqués.
Ah, il y a des chances. Mais Samuel, ce que vous venez de nous dire ou ce que nous a dit Jérôme Marty, malheureusement, on se dit qu'est-ce qui a changé depuis le Covid, qu'est-ce qui a changé depuis la canicule de 2023? Bah, pas grand-chose, finalement. Docteur Samuel, si je puis dire, merci d'avoir
été... Le Covid, les soignants avaient pris le pouvoir. Et visiblement, l'hôpital fonctionnait mieux une fois qu'on l'avait
mis... Parce qu'il y avait urgence.
On avait
merci
mis les
à Samuel et merci au docteur Jérôme Marty d'avoir été des nôtres. À bientôt, Jérôme. L'hôpital va-t-il tenir? C'est la question qu'on vous a posée sur les réseaux sociaux. Où est-ce qu'il va craquer? Qu'est-ce que vous en dites? Oui, il va craquer à 81%. Allez, une autre discussion avec vous au 32-16 dans un instant. La canicule, est-ce qu'on doit mettre des températures maximales? Et au-delà de la température, on arrête de travailler. Vous venez en discuter avec nous, il est 11h-20.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les Grandes Gueules. 1, 2, 3, 4.
Prenez la parole avec les GG, avec les grandes gueules comme Samuel l'urgentiste là, qui était avec nous il y a quelques instants et qu'on salue et qui nous a fait part de son expérience face à cette canicule. Cette canicule, c'est aussi la manière aujourd'hui dont les entreprises, les artisans gèrent leurs chantiers, gèrent leurs commandes, d'autant que aujourd'hui vous avez 60 millions de Français quasiment qui sont sous les chaleurs accablantes. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on établit une température maximale et quand on arrive à cette température, droit de retrait, on arrête les chantiers, on arrête de bosser. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous nous le dites au 32-16. Alors, il y a des pays où ça existe, où c'est fixé par le code du travail. Le congé climatique, il existe aussi en Espagne. C'est le seul pays à côté voisin où on a véritablement instauré ce congé climatique. Mais finalement, avoir une température... Est-ce que c'est une bonne chose où on se dit on fait confiance aux entreprises qui ont obligation légale d'assurer la santé de leurs salariés?
Oui, parce qu'effectivement, pour l'instant, il n'existe pas de température maximale générale inscrite dans le code du travail. En revanche, rappelons que l'employeur a une obligation de protéger la santé et la sécurité de ses salariés. Il doit donc prendre des mesures adaptées en cas de forte chaleur. On a d'ailleurs renforcé ces dernières années ses obligations. La question est de savoir, donc il faut proposer aux salariés peut-être des horaires, suspendre certaines activités à des moments de la journée. Donc la question est donc moins de savoir s'il faut une température maximale absolue que d'en déterminer à partir de quel niveau de chaleur finalement l'activité doit être réduite. Il y a des secteurs où en fonction de ton activité, la température ressentie sera pas la même, on le sait très bien. Alors est-ce qu'il faut généraliser? Pour l'instant, Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail, a rejeté l'idée. Il dit on ne va pas mettre le pays à l'arrêt.
Flora.
Il y a une étude d'Alliance qui est sortie cette semaine sur la canicule et qui montre que la croissance des principales économies européennes va être réduite de 5 à 7% d'ici 2030 à cause des conditions climatiques. Donc 5 à 7% de croissance en moins, c'est énorme. En France, ils disent que c'est des pertes de PIB estimées à 210 milliards d'euros par an. Donc je pense qu'il faut avoir ces chiffres en tête et comprendre, c'est pas faute de le rappeler depuis des années, que le coût de l'inaction est supérieur au coût de l'action. C'est-à-dire que moins on agit, plus ça va nous coûter cher. Et le problème, c'est qu'une économie à l'arrêt, ça fait moins de pouvoir d'achat pour les Français, ça fait moins de redistribution, ça fait moins d'investissement dans les services publics. Et donc, c'est le serpent qui se mord la queue du déclin de notre économie, de notre santé, etc. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est est-ce qu'il faut travailler plus pour renflouer les caisses, ou est-ce que c'est déjà trop tard parce que au-dessus de 30 degrés, la productivité, elle baisse. On va quand même pas mettre la vie de gens en danger. Là, on l'a vu, le nombre des arrêts cardiaques, il est explosif aujourd'hui à cause de la chaleur. Pareil, il y a visiblement un enfant de 3 ans, bon, on connaît pas encore les circonstances, mais qui est décédé à cause de la chaleur. Donc, à partir du moment où la chaleur devient un danger de mort, on va être obligé de légiférer pour protéger la vie des gens, puisque c'est quand même la mission de l'État. Mais il y a urgence à s'adapter parce que c'est une grave crise économique qui nous attend sans adaptation.
En tout cas, moi je pense qu'il faut faire preuve de discernement. Évidemment qu'il faut pas faire travailler les gens sur les toits, sur les chantiers, dans des conditions physiques impossibles à tenir, etc.
Ils commencent plus tôt là les chantiers d'ailleurs.
Il y a aucun débat là-dessus. En revanche, ceux qui se jettent là-dessus pour de nouveau ne pas travailler du tout, ce qui est quand même devenu un sport national.
La passion française.
C'est-à-dire qu'un coup, c'est il fait froid, un coup, c'est il fait chaud, un coup, c'est le 1er mai, un coup, c'est le pont, un coup, c'est le congé ceci, le congé cela, la dépression, tout est prétexte aujourd'hui à ne pas travailler. De toute façon, les gens qui travaillent deviennent minoritaires en France à force. Hein.
Montrer du doigt, suspect.
Il faut dire les choses comme ça. Et alors attention, moi j'ai eu le malheur dans notre précédente émission de dire qu'on pouvait quand même, malgré tout, travailler par ces températures-là et que c'était faisable, pas pour tous les métiers, hein, mais je parle pour ceux qui ont dans un bureau, etc. Il y a plein de métiers dans lesquels on peut travailler, même sans clim. Moi, j'ai un cabinet d'avocat, nous n'avons pas de climatisation. J'ai deux collaborateurs, j'en ai un hier qui était en cravate. Voilà. Et qui travaillait très bien, je vais vous dire. Et il est beaucoup mieux vu à mes yeux depuis que je l'ai vu comme ça, par rapport à l'autre qui était en t-shirt. Et du coup, il est beaucoup moins bien vu. Bon. Mais je veux dire, on a la chance d'être orienté plein nord et tout. Il y a aussi ce genre d'éléments qui comptent, qui font que le bureau est pas du tout surchauffé. Bon, bref. Mais alors, avoir dit ça lundi, j'ai eu depuis une espèce de shitstorm sur les réseaux sociaux où j'ai eu des gens vraiment avec une haine, une violence hallucinante qui m'ont écrit en me traitant mais vraiment de tous les noms.
C'est-à-dire que j'étais
la dernière des merdes, un fasciste, un nazi, et on allait en gros m'étriper sur place pour avoir juste dit que bon, bah tu fous un ventilo sur ton bureau, tu viens en t-shirt, tu peux venir en short si t'as envie, en Birkenstock, en tongs, ce que tu veux. Et en fait, c'est tenable. On va pas se mettre tous là en arrêt maladie, en congé canicule, comme le voudrait Madame Tondelier. Sinon,
c'est contradictoire, parce que ça va se reproduire.
Il va sombrer complètement.
On va prendre un exemple concret avant de te donner la parole, Jean-Loup, celui de Léa qui est dans le Tarn-et-Garonne, qui est infirmière libérale. Bonjour Léa.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez arrêter, par exemple, si on fixait la température à 30 degrés ou 32 degrés, dites-moi?
Ça va être difficile. Déjà, chez certains, la température dépasse dans leur logement. Et nous, dehors, on est obligé d'aller dehors, d'aller dans les voitures. Dès faire nos soins, on est obligé, hein, on est obligé d'être là et d'être présent pour tout le monde. Donc, encore une fois, nous, on ne pourrait pas arrêter.
Vous avez la clim dans la voiture? Oui, quand même.
Oui, oui. Ouais. C'est de la chance.
Et là, vous sentez vraiment les gens en souffrance chez eux, Léa?
Chez certains, oui. Ceux qui n'ont pas la clim, hein, on va être honnête. Il y en a qui ont la clim où ça reste raisonnable. D'autres où vraiment il n'y a pas la clim en HLM ou autre. Et c'est vrai que c'est très compliqué quand on rentre chez eux. Alors, on sent le frais quand on y arrive par rapport à la température extérieure. Une fois qu'on est là, on sent que voilà, c'est très compliqué. Pour nous, qui restons entre 5 à 20 minutes pour certains soins, mais pour ceux qui restent toute la journée, c'est là où on se dit quand même... C'est compliqué.
Et pour vous, pas question d'arrêter de bosser, même s'il fait très très chaud, quoi, de toutes les manières.
C'est difficile.
Merci. En libéral, bien sûr. Merci Léa d'avoir été avec nous et bon courage à vous, Léa. Merci d'être fidélité.
Merci, bonne journée.
Au GG, salut Jean-Loup.
Et tu sais quelle est l'une des plus belles réussites du XXe siècle? C'est Singapour. Parce que Singapour, c'était un obscur entrepôt britannique sur la route des Indes et le niveau de vie était, dans les années 40, plus bas qu'en Afrique. Singapour était plus pauvre que les pays africains. Aujourd'hui, c'est l'un des endroits les plus riches du monde. C'est l'un des pays les plus riches du monde. Et quand on demandait à Lee Kuan Yew, le premier ministre qui avait été à l'origine du succès, du décollage de Singapour, qu'on lui demandait quelle est la raison du décollage de Singapour, il répondait « la climatisation ». Parce qu'à Singapour, s'il n'y a pas de clim, tu ne peux pas travailler. Pareil, Dubaï ou Abu Dhabi, ça n'existerait pas. Hein, ou le Qatar, ça n'existerait pas sans la clim. Donc la clim, c'est ce qui a permis de faire de l'activité économique dans des endroits où normalement, théoriquement, c'était impossible. Moi, je constate deux choses. C'est que, un, la climatisation, du coup, ça peut quand même être utile. Et deuxièmement, c'est qu'à Singapour, où les conditions en termes de chaleur, d'humidité, il fait très lourd, sont bien pires qu'en France. Et vraiment là, sur toute l'année, eh bien eux, ils ne s'arrêtent pas de travailler à Singapour. Et curieusement, ils sont riches. Ah, il y a peut-être un rapport entre le fait qu'on ait la culture du travail et qu'on ne s'arrête pas de travailler pour raison climatique et le fait d'être riche. Alors évidemment, bien sûr que pour les chantiers, les gens qui sont sur les toits, là on est tout à fait d'accord, c'est normal,
oui, mais
soit de travailler plus tôt, soit de ne pas travailler. Mais excuse-moi, pour tous les gens qui travaillent dans un bureau, c'est quand même normal de travailler. C'est normal que les écoles ne soient pas fermées.
Bien sûr, mais
on n'arrête pas de parler des violences dans la sphère familiale sur les enfants. Si tu fermes les écoles comme pendant le Covid, les enfants victimes de violences vont être confinés avec leur
bourreau. Au-delà de 30 degrés, la productivité chute de 10%. Ça, ce sont des
études. Oui, mais quand tu ne travailles plus, elle chute de 100%.
Chaque degré supplémentaire coûte 3. Mais je vais plutôt dans ton sens.
Voilà.
Ça plaide pour la climatisation. Chaque degré supplémentaire coûte 3%. Un bureau à plus de 30 degrés, c'est une demi-journée de travail perdue par semaine.
Mais voilà, donc
ceux qui nous disent la clim, non, vous comprenez, c'est embêtant, etc., ben, sont les mêmes en plus qui veulent qu'on dépense toujours plus d'argent public. Donc tout ça est contradictoire. C'est-à-dire, si on veut effectivement que la France reste un pays relativement riche,
moi, j'ai été...
même partant de fortes chaleurs, il va falloir effectivement climatiser.
Non, mais,
je comprends, proposer des si congés climatiques.
Je comprends les écolos qui sont contre la clim, il faut dire les choses, parce que la clim, ça pollue. C'est
non.
Qui peut... Bah si, ça pollue. Mais
non,
si,
ça réchauffe.
Mais non, ça ne pollue pas. Mais
oui, mais donc c'est mauvais. Non, mais c'est mauvais pour l'écologie, si tu veux. Ça réchauffe.
Bah non. Enfin,
démontre-le-moi. Bah, ça consomme beaucoup d'électricité et ça réchauffe la température extérieure.
Donc l'hiver
très idéal. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans un monde idéal, il eût fallu qu'il y ait certaines régions du monde où on n'ait pas eu l'obligation de climatiser. Il se trouve que le réchauffement climatique a été plus vite que ce qu'on pensait et que donc finalement on se retrouve plus ou moins obligé de climatiser. Mais encore une fois, on peut climatiser les écoles, les bureaux, etc. Je maintiens que c'est pas forcément indispensable. Et en tout cas, tous ceux qui là estiment qu'on peut pas vivre sans clim, je pense qu'il y en a pas mal qui exagèrent un petit peu.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui qu'on veut de nouveau en passer par la loi plutôt que de faire confiance à ce qui existe, c'est-à-dire l'obligation pour les chefs d'entreprise de protéger les salariés. Enfin, quel artisan du BTP a intérêt à ce que son salarié, tu vois, meure par 40 degrés, meurt par 40 degrés
tu vas avoir
sur un toit.
La pression du donneur d'ordre.
Oui, du donneur d'ordre, mais...
Bien sûr que le patron, la petite PME qui a trois salariés, il va pas. Mais t'as la pression aussi du type qui veut que son chantier soit terminé.
Bien sûr, mais si tu dis, monsieur, là, on va reporter de 3-4 jours, désolé, mais vous comprenez bien que on n'a pas envie
circonstances exceptionnelles.
Voilà, circonstances exceptionnelles. Et tu fais ça en bonne intelligence.
Ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est les écoles. Parce que moi, au mois de janvier, j'étais venu sur ce plateau et je m'étais érigé contre la fermeture des écoles pour cause de froid. Je vois que c'est une passion française.
Charles Consigny va te dire que le chômage.
Française de fermer les écoles. Covid, froid, chaud, faut tout le temps fermer les écoles.
On va continuer d'en discuter avec le sénateur communiste Fabien Gay dans un instant. Il est notre invité.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.